Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous avec ma femme d'aujourd'hui. C'est un long voyage que nous allons faire, mais tout en restant extrêmement enracinés. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Salima Kaisi, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remarque Lala Salima.
Je vais très bien, merci. Et c'est un grand honneur pour moi de participer à ton podcast et de passer de l'audience à la scène principale pour partager quelques aperçus de mon parcours de Wazen à la Silicon Valley.
Absolument, magnifique. Merci pour cette belle introduction de Wazen à la Silicon Valley. Absolument. Lala Salima, justement, tu as passé combien d'années à Wazen?
Écoute, je suis née, j'ai grandi à Wazen et j'ai quitté après le bac à l'âge de 18 ans.
Ok, c'était la première fois que tu sortais de Wazen?
Sortir pour vivre ailleurs, oui. J'ai voyagé un peu. On vient d'une famille un peu simple, on a pas beaucoup voyagé, mais oui, j'ai voyagé un petit peu, mais j'ai quitté la famille pour la première fois à 18 ans.
À 18 ans. Pour aller où, justement?
Pour aller à Tanger, pour mon école d'ingénieur.
Ah d'accord, tu es venue étudier à Tanger.
Exactement, à l'Institut de Tanger.
Ok. Est-ce que tu es la première à avoir fait des études dans ta famille?
Pas la première, parce que j'ai un frère qui a fait des études de littérature anglaise en Irak. J'ai un frère qui a fait des études en économie et j'ai une sœur aussi. Donc, je n'étais pas la première. Je suis la plus petite de la famille, mais pas la première à faire des études. Par contre, la première à avoir un diplôme d'ingénieur.
Un diplôme d'ingénieur. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que tu es la première à avoir quitté le... Non, tu as dit ton frère a fait des études de littérature anglaise en Irak. En Irak, carrément.
En Irak, carrément, ouais. Dans les années... Début années 80.
D'accord. Ah, donc il y a une grande différence d'âge, Minescom.
Oui. Alors, nous, je viens d'une fratrie de 8 personnes, donc je suis la plus petite. Mon père était marié, il avait 4 enfants, et puis sa femme est décédée largement. Et puis, elle s'est mariée avec ma mère, elle a eu 4 enfants. Donc, il y a une grande différence d'âge entre la première partie et la deuxième partie.
Okay. Et vous avez tous grandi ensemble dans la même maison?
Oui, mais vu la différence d'âge, la majorité ont quitté de la première partie, soit pour les études, soit pour le travail, soit pour le mariage.
Okay.
Donc, on a grandi dans la même maison, mais dans des époques différentes. Donc, quand moi, j'étais petite, mes grands frères et ma grande sœur n'étaient pas là. Ils venaient que pour des vacances et tout.
Ok. Mais quand ils venaient, tu sentais que c'était tes frères et sœurs?
Oui, complètement.
Ouais.
Complètement. Ouais, ouais.
Vous avez grandi dans ça, même venant de deux mamans différentes?
Oui, complètement, oui.
Ouais.
Et
ça, tu penses que...
De différence.
Malgré la différence. Et ça, tu penses que ça vient de l'éducation et de l'implication de ton papa ou l'a dit-elle ta maman? Qu'est-ce qui a fait que, finalement, cette fratrie a grandi comme une seule vraiment fratrie entière?
Je ne sais pas, honnêtement, je ne saurais pas répondre, mais ça, c'était naturel. On était tous frères et sœurs. Mon père, honnêtement, était très le même père avec tout le monde. Et ma mère a beaucoup aidé mes frères et sœurs. Ça s'est fait naturel pour moi, j'étais petite, mais je crois que c'était l'effort des deux parents.
L'effort des deux parents. Qui c'est qui t'a poussé? Alors, c'est vrai que c'est de Wazen à la Silicon Valley, mais qui c'est qui t'a donné l'autorisation morale de poursuivre ces études comme ça et d'aller loin géographiquement aussi?
Alors, c'était en fait, j'ai eu la vision de faire quelque chose de grand de ma vie. Et en fait, j'ai beaucoup d'aide de la part de ma famille et m'ont toujours laissé faire ce que je veux faire. Je viens d'une famille très simple, d'une petite île. On sait que des fois, on dit que la femme n'a pas beaucoup de droits ou on lui impose de faire des choses. Ça n'a pas été le cas pour moi. Je viens de famille, mais ont beaucoup de conscience. Ouais, c'est ce que je dirais. Donc, je suis vraiment très reconnaissante pour ça. On m'a toujours laissé faire ce que je veux et moi j'avais mes propres choix et je voyais des gens autour et j'étais inspirée et je savais que je vais arriver là où je veux être et avec beaucoup de travail, beaucoup de détermination, alhamdoulilah, j'ai pu faire plein de choses dans ma vie.
Mmh. Quand tu le... Alors, la Silicon Valley, c'est arrivé, donc San Francisco, les États-Unis, c'est arrivé combien de temps après Tanger?
Alors, j'ai eu mon diplôme en 2007 de Tanger et je suis partie aux États-Unis en 2016. Mais entre-temps, je suis partie en France et je suis retournée au Maroc et puis je suis repartie aux États-Unis.
D'accord. En France pour des études ou là pour le travail?
Alors, en fait, moi, j'ai eu le diplôme d'ingénieur, mais je voulais absolument travailler plutôt dans le côté commercial, être en relation avec clients et tout ça. Et donc, je voulais ajouter un master en management et je voulais le faire en France. Mais je n'avais pas les moyens pour le faire. Donc, pour moi, la solution, c'était idéalement trouver un travail en France pour pouvoir financer mon master. Et donc, je suis partie directement en tant qu'ingénieure. J'ai trouvé un job, donc c'est ce qui m'a facilité l'accès en France pour, en termes de papier et tout ça. Donc, j'ai travaillé en tant qu'ingénieure et en parallèle, j'ai fait mes économies et j'ai fait mon master à l'ESSEC, à Paris.
À l'ESSEC, Tbarkallah. Donc, en fait, tu as fait tes économies, tu as arrêté de travailler pour démarrer des études ou là, tu as fait un exécutif? Master.
J'ai fait un exécutif parce que j'avais besoin de l'argent pour financer. Donc, j'ai étudié les week-ends une fois, deux fois par mois pendant 2 ans.
Ok. Tu étais fière de toi après cette expérience?
Laquelle exactement? Celle de Paris?
Ouais.
Oui, alhamdoulilah. C'est ouais. Parce que des fois, on a besoin des choses et on croit que c'est facile de le faire. Mais quand c'est pas facile, donc ça a pris beaucoup de temps. C'était pas du tout facile de travailler et d'étudier en parallèle. Et j'étais très active sur le plan bénévolat, donc je faisais plusieurs choses en même temps. Donc c'est très, très, un peu fatigant, mais c'était aussi très inspirant en fait. Et donc au bout de 4 ans en France, j'ai passé 4 ans, j'ai l'impression que, alhamdoulilah, j'ai fait des choses, que ça allait prendre peut-être une dizaine d'années, mais le fait que j'ai pu les faire en parallèle, alhamdoulilah, j'étais très contente et, de mes réalisations pendant les 4 ans que j'ai passé en France.
Quand tu rentrais pendant ce temps au Maroc, j'imagine, pendant les vacances?
Les vacances, et même en fait, moi je suis très attachée à ma famille, donc des fois elle me manquait énormément. Et comme la France n'est pas très loin, donc des fois elle me manquait comme ça et je ne pouvais pas gérer la situation. Donc je demandais à mon manager de prendre un lundi et je faisais des longs week-ends pour venir au Maroc, aller à Ouzen, parce que mon père ne pouvait pas se déplacer, il était malade, donc il fallait. Ça me prenait plus de temps pour aller de Casa à Ouzen que pour arriver à Casa depuis Paris.
Depuis Paris, oui.
Ouais, je ne faisais que pour des week-ends prolongés des fois. Donc oui, je venais très souvent.
Ouais. Après, ça a été les États-Unis.
Oui.
Alors, l'expérience à Paris, tu n'étais pas encore mariée.
Non.
Tu n'étais pas encore mariée, donc libre en fait de ton temps, pas d'enfant, pas d'engagement, etc. C'est pour ça que tu pouvais te donner à 2000%.
Très, très simple, oui.
Exactement. Ensuite, tu as connu ton mari avant les États-Unis?
Alors, en fait, j'ai voyagé pour la première fois aux États-Unis quand j'étais à Paris. C'était pour participer dans une conférence internationale d'une association avec laquelle j'étais très active. Et il était dans un des événements de l'association. Donc, c'est là où je l'ai rencontré. C'était mon premier voyage aux États-Unis. Voilà.
Ok. Premier voyage. Et the love at first sight?
And you can also say, let my heart in San Francisco. Il y a une chanson qui dit, let my heart in San Francisco. C'est carrément le cas pour moi.
C'est vrai. Ouais. Tu en as pris conscience sur place.
Ouais.
Incroyable, incroyable. Ça fait combien de temps, Tbarkallah, que vous êtes ensemble?
Écoute, on s'est vus, ça fait 14 ans, mais on n'était pas ensemble depuis. C'était une rencontre rapide. Et en tant que Marocain, d'Axim Tenzelbouj, tu vois, ça a pris du temps. Donc, je l'ai vu rapidement dans un événement. Ça a pris beaucoup de temps, on est resté en contact, je dirais, un peu amical slash professionnel. Et après 3-4 ans, c'est là où la relation vraiment a commencé. On s'est marié en 2016.
Okay. Il est marocain d'origine?
Il est marocain, sa famille au Maroc, oui.
Ah, subhanallah. Et tu le rencontres à San Francisco?
Exactement, on était les seuls Marocains dans un grand événement de milliers de personnes. On était la seule Marocaine et les seuls Marocains. Et voilà, le mktab.
C'est le mktab.
Voilà.
Il fallait
aller jusqu'au bout.
Incroyable, incroyable, incroyable. Ouais. Pour trouver la personne, parce que en
la
fait,
personne,
pour trouver la personne qui t'était destinée. Lela Salima. Alors, raconte-nous l'expérience Silicon Valley.
Okay.
Est-ce que c'est alors ce que je veux savoir, c'est tous les mythes autour, est-ce qu'ils sont vrais?
Je dirais oui. La Silicon Valley, je ne dis pas les États-Unis en particulier, mais San Francisco, c'est big time, oui.
Ouais.
Ouais. C'est faux. Ouais. C'est le cas.
Et toi, tu as travaillé dans, en quoi là-bas?
Moi, j'ai travaillé surtout dans la même boîte, en fait, pendant 6 ans. C'est une boîte très connue dans le monde de la cybersécurité. J'ai passé 6 ans. 5 ans, j'étais avec l'équipe partenariat stratégique. Et ma dernière année, j'ai switché vers le VC, le Venture Capitalist. Donc, j'ai aidé la boîte à investir dans des startups de la cybersécurité un peu partout dans le monde.
Ok. Et ça, donc tu as passé 6 ans à la Silicon Valley dans cette boîte.
Oui.
Ok. Et puis, il y a quelque temps, avec ton mari, vous avez décidé de rentrer au Maroc.
Je dirais, on est un peu entre les deux pays en ce moment-là. On est en train un peu de tester, de voir, comme on a une fille qui est encore petite, donc ça nous permet d'être flexible. Donc actuellement, on est au Maroc. On part aux États-Unis dans 2 mois. On va y rester quelques mois. Donc on est un petit peu entre les deux pays en ce moment, mais on sait qu'il va falloir se décider quand la petite est à l'âge de l'école principale. Donc voilà, je dirais pas qu'on est de retour à 100%. On est active à 100% aux États-Unis en termes professionnels. Pour les deux. Donc voilà, on est un peu entre les deux pays en ce moment.
Ok, alors j'ose pas te demander, ton papa il va mieux ou il est parti en de là?
Mon père, il est parti en 2012. Et
D'accord.
de là, j'étais de retour de la France à Dakhlem. Donc j'ai eu l'occasion de le voir 9 ou 8 mois très très souvent, parce que j'étais à Casa et je partais souvent les week-ends pour les voir. Mais il est parti en de là en 2011.
Ouais.
En 2012,
En
pardon, 2012.
2012. Faire son deuil quand on est loin, c'était difficile d'être de... parce que tu devais repartir, j'imagine.
En fait, j'étais à Casa à l'époque. J'étais rentrée parce que même chez le français, au Jet, il me rallait 3-4 ans et je suis repartie aux États-Unis. J'ai un
D'accord.
job avec Microsoft. C'était chauffe, 4 chiffres, chaque là, Yasmine.
Ah.
Je ne comptais pas retourner. J'ai fait mes 4 ans de français et j'ai eu mon diplôme et je voulais partir ailleurs. Je voulais avoir une expérience à l'international. Donc, je cherchais des jobs à Dubaï, dans d'autres pays. Et j'ai un job auquel je n'ai même pas postulé. C'est avec Microsoft. C'est juste avec une amie qui a envoyé mon CV, ils m'ont appelé. C'était très, très compétitif dans un programme très spécifique. Et c'était l'amie qui a postulé pour moi, c'était à Dubaï. Et quand on m'a appelé, on m'a dit que c'est un rôle où tu peux être basée au Maroc ou à Dubaï. On sait que tu es marocaine. Donc, est-ce que tu as une préférence? Et moi, j'avais même pas dans mes plans l'idée de rentrer au Maroc. Et j'ai pris 2 secondes pour réfléchir et je me suis dit, je suis ouverte pour les deux avec une préférence pour le Maroc. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai dit. Et j'ai eu le poste et je suis rentrée au Maroc et c'était pas du tout planifié. Et au bout de 9 mois, mon père est décédé. Donc, je sais que mon père était très âgé. Et plus ou moins, son départ était un petit peu envisageable. Et ma famille me disait tout le temps, il a auprès avec le décès, comment ils vont m'informer? Je suis toute
Ouais.
seule à Paris, je suis la plus petite, très sensible, tout ce que tu veux. Et subhanallah, avec le week-end où il est parti chez le bon Dieu, j'étais la seule à Ouezzane. Donc, j'étais là. Non
Ouais.
seulement j'étais au Maroc, mais j'étais à Ouezzane. Donc j'étais la seule de la fratrie, de tout le monde, j'étais la seule à la maison. Donc ça m'a aidé à accepter un petit peu le décès, que si j'étais là, c'est ma cage, ma cage. Donc une grande leçon de vie.
Absolument, une grande leçon de vie. Subhanallah, rien ne se prépare comme on le pensait en fait. C'est une leçon de lâcher
Exactement.
prise en réalité.
Et de Hassan
Ouais.
Sakraouché, écoute, je voulais partir ailleurs, ou machine là, quand je suis contente, mais c'est juste que c'est pas quelque chose que j'ai planifié, et au contraire, j'étais contente avec mon rôle et tout, mais juste sans. En fait, le moment où j'ai vu mon père, le Fechtouf, Allah yirhamou, film, il y a un an, je voulais en fait un autre poste où ça n'a pas marché. Et j'étais pas du tout contente. Ou Microsoft, ou le week-end en particulier. En fait, on avait même l'offsite avec Microsoft à Marrakech. Ça a été programmé un peu dernière minute. Anna, j'ai dit à mes parents que je vais venir le week-end. Et j'ai beau réfléchir, ouais, je me suis l'offsite ou là j'annule mon voyage qui est déjà planifié. Et j'ai juste écouté mon cœur. Où j'ai envoyé un mail en disant je ne vais pas me joindre à vous à Marrakech pour l'offsite. Moi, j'ai déjà programmé un voyage à Ouazzane et je vais aller voir mes parents. Ils sont des parents âgés et je ne veux pas les décevoir. Et c'est même pas, vous avez été âgé, mais dès que la période en particulier n'était pas nécessairement avec les signes, le départ. Mais le bon Dieu a fait que j'ai senti quelque chose et je suis partie et j'étais là. Et ça a beaucoup aidé pour accepter un petit peu ce qui s'est passé.
Alhamdulillah. Alors, Lala Salima, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'en fait, avec tout ce parcours d'ingénieur, l'ESSEC, la Silicon Valley, tu as décidé de prendre un autre chemin. Au-delà de changer de pays, de continent, de revenir, de repartir, tu as décidé en fait de changer, de faire autre chose.
Oui. En fait, j'ai toujours fait autre chose. Donc, pour moi, ce n'est pas une reconversion, mais c'est juste une évolution de carrière.
Tu as toujours fait autre chose parce qu'en fait, tu as fait des études d'ingénieur, mais tu as ensuite fait du management. Tu as fait la relation client, après tu as fait le venture. Il y a que c'est ça. C'est ça que tu...
Exactement. Voilà. J'ai toujours changé. Donc, pour moi, c'est juste une évolution de carrière, mais non pas une reconversion professionnelle.
Ouais. Mais là, en fait, tu as arrêté tout ça et tu as fait des formations en coaching, en accompagnement.
Exactement. En fait, je fais le coaching et en parallèle, je continue à travailler pour mon propre compte pour aider les startups en termes de stratégie, partenariat, business development. Donc, je fais un petit peu les deux en même temps, mais je travaille à mon compte à ce stade-là de ma vie.
C'est aussi une forme de coaching.
Oui, mais c'est en fait le coaching avec. En fait, le coaching, il ne faut pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, il faut les orienter. Mais quand je fais des missions de conseil, je dis ce qu'il faut faire en termes de stratégie de partenariat parce que j'ai beaucoup d'expérience et d'expertise. Donc, c'est un petit peu, j'accompagne, mais c'est différent. On accompagne de la même manière quand on fait le coaching et quand on fait le conseil.
Mmh. Je comprends. Pourquoi tu es allée vers le coaching?
Alors, d'abord, je voulais faire un truc à mon propre compte parce que je voulais avoir contrôle de mon temps. J'étais un petit peu fatiguée de travailler des heures de folie, les week-ends et tout ça. Je voulais vraiment contrôler mon temps, mais aussi contrôler le travail où je veux. De par mon origine du Maroc, je vais aux États-Unis, je voulais être un petit peu entre les deux pays. Et du coup, avoir un travail flexible, c'est quelque chose qui me permettra de faire ça. Donc, aussi, je voulais quelque chose qui paye bien, pour être très honnête.
C'est logique.
Je voulais quelque chose où je ne vais pas travailler plusieurs heures et que je peux le faire. La majorité des rôles ont besoin de toi full-time. Et voilà, donc j'ai fait beaucoup de mentoring dans ma vie, beaucoup de bénévolat. Donc j'ai aidé les gens, mais c'était quelque chose de naturel. Et j'ai trouvé que le coaching, c'est une évolution de mentoring. Et c'est quelque chose qui check les boxes. Donc, je peux être où je veux, ça paye bien en général, et je peux travailler de n'importe quel pays. Je peux décider de travailler 40 heures ou 4 heures par semaine. Donc, vraiment avoir ce contrôle de mon temps, c'est quelque chose qui m'a motivée à faire le coaching.
Alors, moi, j'ai envie de savoir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que de prendre du recul et de te dire, waouh, je veux pas ça, en fait. Je veux travailler d'une autre manière, je veux vivre d'une autre manière.
En fait, j'aimais ce que je faisais à la Silicon Valley. J'ai adoré. Si c'était à refaire, je le referais. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup donné. Par contre, travailler non-stop, c'était un petit peu fatigant à certains moments. Et ce qui m'a fait réfléchir à prendre ces décisions et de prendre un peu de recul et de ralentir, c'était marqué un petit peu par les départs. On voyait le départ de mon père, les départs d'autres personnes très, très proches dans la famille. Et que c'était des rappels que la vie est de passage, qu'il y a un cycle dans la nature et que je ne veux pas passer ma vie à courir, à évoluer dans des rôles. C'est quelque chose qui me faisait absolument plaisir, mais à un certain moment, ce n'était pas l'ingrédient principal pour mon bonheur, je dirais. Et j'ai donné plus de priorité à ma vie personnelle, parce que c'est ce qui me donne le bonheur total, c'est quand je suis avec ma famille, avec ma fille, avec mon mari, avec ma famille ici au Maroc. Donc, j'avais pas honnêtement beaucoup de problèmes à je sais pas comment l'expliquer, mais c'était facile pour moi de dire non. C'est pas évident parce que tu es là dans les salles où les grandes décisions sont prises, où il y a les press releases et les choses qui vont être annoncées sur le stage de Amazon Web Services ou Google, et tu dis waouh, je suis ici et je vais tout quitter. Mais il faut juste savoir ce qu'on veut dans la vie. Je crois que ça facilite ce genre de décision et non pas être attaché à des choses juste pour être attaché ou juste pour le nom ou juste pour le titre. Si on le fait parce qu'on veut, c'est bien. Il y a des gens qui le font et qui adorent et qui veulent passer leur vie comme ça. Il n'y a aucun problème. Mais si on trouve le bonheur ailleurs, il faut juste être en paix avec soi-même et savoir ce qu'on veut pour pouvoir prendre ce genre de décision.
Je pense, Salima, ça c'est quand on s'est fait. On n'a pas été fait par d'autres. Tu t'es construite, en fait. De loin, quelqu'un va dire, oui, mais quand même, elle est partie en France, elle a quitté sa femme, elle est partie à Tanger, ensuite elle est partie en France, elle est partie aux États-Unis. Elle a fait tout sauf pour se recentrer sur elle-même, sur sa famille, faire du coaching. Il y a 36 000 coachs. Comme tu as dit, elle laisse tout ce qui est grande décision, grande signature, le cœur battant de l'économie et de l'innovation mondiale, etc. En fait, c'est parce que c'est toi qui t'es faite, toi-même. C'est pas quelqu'un qui t'a fait.
Tu as tout à fait raison, mais en même temps, en fait, c'est que j'ai essayé de trouver un autre moyen pour continuer à être connectée avec ce monde, mais à mes propres termes.
Voilà, exactement.
Donc, je suis toujours connectée avec les gens de la Silicon Valley. Je parle toujours avec eux, presque chaque jour. Je suis toujours en contact avec mes collègues. Rien qu'hier, j'ai parlé avec deux collègues de mon équipe. Ça. Donc... je continue à être connectée, mais différemment et à mes propres termes. Voilà.
Ouais, tu le vis bien, en fait, ce changement de statut.
Alhamdoulilah.
C'était quoi ta position avant de quitter ?
J'étais directeur Octa Ventures.
OK. Et là, tu n'es plus directrice ?
Non, mais je suis CEO de mon...
Exactement.
C'est la meilleure piste. Je me donne les titres que je veux.
Excellent. Excellent, Selima. Bon, en tout cas, je t'embrasse très fort. C'est un plaisir de discuter avec toi. Tu me donneras tes nouvelles. Tu me diras, est-ce que tu es partie, est-ce que tu es restée. Voilà. Et prends soin de toi, prends soin de ta petite et de ton mari aussi.
Merci infiniment, Yasmine. C'était un grand plaisir et j'y manquerai pas. Je te tiendrai au courant de mes aventures.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.